Le peintre Corot par Fung Brentano. Pascal a été un profond penseur. Mais, comme à plus d'un homme de génie, il lui est arrivé de dire des sottises. La suivante, notamment. Quelle vanité que la peinture qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire pas les originaux. Combien son prédécesseur, le philosophe anglais Bacon, avait vu plus juste en donnant de l'art cette définition « L'art est la nature plus l'homme ». La nature vue par une pensée géniale, une âme de poète, un cœur délicat, et exprimée par le poète, le peintre, le sculpteur en traduction de ses impressions. C'est ainsi que notre grand et délicieux paysagiste Camille Corot disait « Ce qu'il faut peindre, c'est la vérité, mais baigner dans l'impression que nous avons reçue à l'aspect de la nature. » Il ajoutait « L'art, au fond, est l'amour. » Déjà, notre Chardin, peintre de la vie humble et familiale, exprimait cette opinion. On ne peint pas avec des couleurs, mais avec son sentiment. Jean-Baptiste Camille Corot naquit à Paris le 28 juillet 1796. Son père était dans le commerce. À l'entrée de la rue du Bac, au coin du quai, sa mère tenait un magasin de nouveautés. Fribolité, fanfreluche, dira le peintre, qui nous a donné l'aisance et même une petite fortune. Le jeune Corot fit son éducation au lycée de Rouen, où son père avait obtenu une bourse pour lui. Il y demeura 7 ans. À son retour, son père le plaça chez un maître drapier afin qu'il y fît son apprentissage. Mais le jeune homme ne témoignait guère de goût ni d'aptitude au métier. Il se cachait pour dessiner. Vocation qui fut encore accentuée par la connaissance que Camille Corot fit du jeune Michalon, lauréat du premier prix de Rome, qu'on venait de fonder pour le paysage. Votre fils n'a pas l'ombre de disposition pour le commerce. Il en a le dégoût, dit certains jours l'honnête drapier au père Corot, qui manda son fils pour le morigéner. Mon père, je vous en supplie, laissez-moi suivre mes goûts. Les dots de tes sœurs ont été prêtes à l'heure et j'espérais te trouver un bon établissement. Mais puisque tu refuses de continuer ton état, je te préviens que, moi vivant, tu n'auras jamais qu'une rente de 1500 francs que je te servirai. Vois si tu peux te tirer d'affaire avec cela. L'artiste en herbe sauta au cou de l'auteur de séjour. Vous êtes le meilleur des pères et vous me rendez très heureux. Le père Corot était en effet un brave et digne homme. Toute sa vie, son fils lui témoignera un profond respect et une tendre affection. Camille Corot exultait. Il voyait un grand ciel bleu de liberté et de gloire s'ouvrir devant lui. Il entrait dans sa 24e année. Tout aussitôt, il courut s'acheter palettes, toiles, pinceaux et couleurs, et dans sa joie empressée, se mit immédiatement à peindre le plus proche paysage qu'il eut à sa disposition. Sur la berge de la Seine, devant la boutique de sa mère, il descendit dans la direction du pont royal et se tourna vers la cité. Au fait, il y avait là, sous les yeux, l'un des plus beaux paysages urbains qui soit au monde. Le voilà au travail. Nous avons vu que depuis des années, secrètement, il faisait l'artiste. Dans la suite, il accrochera dans son atelier ce premier paysage, œuvre de son pinceau. Il le regardait non sans émotion, dans le souvenir de ses heures de joie, de confiance en l'avenir. Il le montrait à ceux qu'il venait voir. Pendant que je faisais ça, il y a tant et tant d'années, les jeunes filles qui travaillaient dans le magasin de ma mère, curieuses de voir M. Camille dans ses nouvelles fonctions, s'échappaient du magasin pour venir regarder ce que je fabriquais. Elles se pressaient autour de moi, rieuses et me taquinant. Son premier maître fut le jeune Michalon, à peine plus âgé que lui, un paysagiste dans la tradition classique et qui jouissait d'une grande faveur. Curieuse figure au reste, mais plus connue comme directeur du journal des débats et par l'admirable portrait qu'Ingres a fait de lui que comme paysagiste. Le jeune artiste était hanté par la pensée du beau voyage d'Italie. Nous le trouvons à Rome, où il se lie avec le célèbre peintre des pêcheurs et des pâtres napolitains Léopold Robert, puis avec deux paysagistes éminents, Aligny et Dupré. Aligny surprit le jeune Corot au moment où il peignait sa délicieuse vue du Colisée, aujourd'hui au Louvre. Frappé du charme de l'esquisse, il noua dès lors avec Corot des liens qui ne feront que s'affermir avec le temps. Au salon de 1831, qui fait date dans l'histoire de la peinture par l'éclatante apparition de l'art romantique, Corot exposa 4 toiles qui passèrent inaperçues. Corot était un simple, un modeste, un travailleur à qui son art suffisait. Il y trouvait son bonheur, son orgueil. Nul homme moins que lui ne songeait à faire violence à la renommée, à quémander la faveur des journalistes. Et puis ses tableaux, en leur douce et vaporeuse poésie, n'avait rien qui tire à l'œil. Au salon de 1841, il se vit refuser 4 toiles. À l'exposition de 1851, ses envois furent très mal placés. Voyant que personne ne s'arrêtait pour les regarder, Corot pensa aux attroupements de badauds qui ne laissent pas de se former dans la rue autour d'un personnage qui regarde avec obstination un point déterminé. Il se plante devant ses œuvres. Arrive un jeune couple qui s'approche. « Eh, mais ce n'est pas mal, » dit le monsieur. « Il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans. » Mais la jeune femme, jolie, ma foi, l'air doux, tirant son mari par le bras tout en faisant l'amour. « Mais non, c'est affreux, allons-nous-en. » Et Corot, mélancolique, se disait « Es-tu content à présent d'avoir sur ton talent l'opinion du public ?» Cependant, l'artiste ne se décourageait pas. Un éditeur qui lui demandait un autographe, il répondait « Dans la carrière d'artiste, il faut conscience, confiance en soi et persévérance. » Sur l'avis de quelques membres en vue du jury de peinture, l'illustre paysagiste finit par être décoré de la Légion d'honneur, tandis que son propre père continuait de se défier de son talent. Pour lui, son fils n'était toujours qu'un rapin, pour ne pas dire un raté. La Légion d'honneur, cependant, lui fit hocher la tête. Il aborda le paysagiste français. « Dis donc, monsieur français, vous que vous y connaissez en peinture, les tableaux de Camille valent-ils vraiment quelque chose ?» Français eut la plus grande peine à convaincre l'excellent homme que son fils Camille était, en son art, le plus grand peintre de son temps. Corot était grand, fort, robuste, le visage toujours rasé de près, une mine fraîche, rouginode, comme disent les paysans. Les yeux, bleu foncé, avaient un regard à la fois vif et doux, et sur ses lèvres flottait une attachante expression de bonté. Il était toujours vêtu proprement, mais simplement. Un vaste chapeau de feutre gris, une veste dont l'ampleur eût arraché à un dandy de l'époque des cris d'horreur. Les souliers découverts laissaient paraître des bas bleus. Ceux de ses familiers qui nous ont laissé leurs impressions sur le célèbre artiste disent, les uns qu'il avait l'air d'un vigneron bourguignon, les autres d'un fermier normand. En son atelier, Corot chantait tout en travaillant, quand il ne fumait pas. Il chantait d'une voix très juste et agréable des airs d'opéra ou des refrains à la mode, le suivant notamment qui devint sa chanson coutumière. « Je sais attacher des rubans, je sais comment naissent les roses, des oiseaux je sais tous les chants, je sais mille petites choses, mais je sens palpiter mon cœur. » Ceux qui pénétraient dans son atelier le trouvaient coiffé d'un bonnet de coton rayé de couleur, vêtu d'une blouse de toile bleue, le cou pris dans un haut col blanc, raide et empesé. Il avait généralement sa pipette à la bouche. L'ameublement de l'atelier était des plus simples. 2 ou 3 fauteuils de bois unis, 2 ou 3 chaises. Les murs ne portaient d'autres ornements que ses propres œuvres, notes, esquisses, croquis, notations prises au vif sur la nature, qui lui servaient d'éléments à guider et soutenir son imagination. Car, pour fidèle interprète de la nature qu'il avait à cœur de se montrer, Corot était, le pinceau en main, un puissant et fécond improvisateur. Le père du charmant artiste possédait une maison de campagne à Ville-d'Avray, où son fils allait fréquemment passer la belle saison. Camille Corot l'aimait beaucoup. À la lisière du bois, non loin de cet étang de Morfontaine dont il fait, sous une claire lumière d'avril qui baigne les rondes des nymphes légères, un de ses plus ravissants tableaux. De la maisonnette de Ville-d'Avray, il aimait la solitude, le calme, que rien ne venait troubler le gazouillis des oiseaux. Il y restait parfois des heures entières, accoudé à l'appui de la fenêtre, durant les belles nuits d'été, en contemplation, s'imprégnant de la nature en son repos bienfaisant. Il rêvait à ses œuvres, aux spectacles qu'il avait glanés le long du jour et déposés en son âme pour les faire reparaître sous la magie de son pinceau, car c'était là encore des heures de travail dans leur recueillement. Il plantait son chevalet parmi les champs, déployait son grand parasol qu'il avait également fiché en terre, s'asseyait sur son pliant, et le voilà, toujours sa pipette aux lèvres, peignant gaiement. Dans la poitrine de Corot battait un grand cœur. Nulle misère ne le trouvait indifférent. Les sommes importantes que lui valurent ses œuvres dans les dernières années de sa vie, où son art fut enfin unanimement et universellement admiré, passaient en grande partie à des parents ou à des amis peu fortunés. Lui-même ne s'était pas marié. Après la guerre de 1870, il envoya, dès les premiers jours, 10 000 francs à la souscription pour la libération du territoire. « Je n'accumule jamais mes revenus, » disait-il gaiement. de peur d'inondation, je lâche tous les ans les écluses. Pour capter les flots auxquels les écluses en question donnaient un cours abondant, le bon peintre avait ce qu'il nommait ses habitués. L'un d'eux lui disait « Vous devez trouver que je reviens bien souvent à la charge. » « mais non, c'est un devoir de s'obliger l'un à l'autre, et pour moi, c'est un plaisir. » Le génial Daumier vivait pauvrement en une petite localité de l'Oise. Corot le trouva angoissé. Le paiement du loyer était en souffrance, et le propriétaire menaçait d'expulsion. Peu après, Daumier recevait un titre de propriété de la maison qu'il occupait, avec ce simple mot du bon Corot. « À présent, cher ami, je défie ton propriétaire de te mettre à la porte. » Tout entier à son art, l'excellent peintre n'avait guère d'oreille pour les bruits du monde. Il lisait et relisait l'Imitation de Jésus-Christ et les Bucoliques de Virgile, mais ignorait que la littérature française de son temps comprit des journaux. Victor Hugo était dans tout l'éclat d'une gloire retentissante quand Corot disait à un ami « Il paraît que M. Hugo est assez fameux en littérature. » « Fameux » était son expression coutumière pour dire « de bonne qualité ». Un confrère vint le voir le 23 février 1848. L'insurrection était déchaînée. Le 24, Louis-Philippe prenait la fuite. Le 25, la République était proclamée. « Oui, disait le bon Corot au confrère qui lui parlait du roi et de Guizot, son ministre, il paraît qu'on n'en est pas tout à fait content. » La carrière artistique du délicieux paysagiste se termina sur un beau rayon de gloire. En 1874, les peintres, ses admirateurs, posèrent sa candidature à la médaille d'honneur du salon. Après 22 tours de scrutin, Cabanel l'emporta d'une voix avec sa Francesca de Rimini. Ne médisons pas trop de ce vote, comme on a coutume de le faire. La Francesca de Cabanel est un très beau morceau. Aussi bien, Corot eut-il une splendide revanche. Une souscription s'ouvrit pour offrir à l'illustre paysagiste une médaille d'or égale à celle qu'on aurait voulu lui voir décerner. La souscription fut couverte d'enthousiasme. Corot travailla jusqu'à ses derniers jours. En octobre 1874, la mort de sa sœur, avec laquelle il vivait en une bonne et touchante union fraternelle, le frappa douloureusement. De ce jour, sa belle santé, robuste et joyeuse, déclina rapidement. Ses derniers moments furent émouvants. Il était entré en délire, un beau délire d'artiste doux et rayonnant. Il voyait de ses yeux, où déjà la mort mêlait ses brumes, se dérouler devant lui un grand paysage ensoleillé. Il l'indiquait d'une main qui faisait le geste de tenir un pinceau. « Voyez-vous comme c'est beau. Je n'ai jamais vu d'aussi beau paysage. Quelle merveille à peindre !» Ce furent ses dernières paroles. Le grand artiste mourut à Paris le 23 février 1875. Il avait 80 ans. Ainsi s'achève le peintre Corot par Funk Brentano.